Bonjour, Nanit Talani de retour dans ce studio pour vous présenter ce bulletin d'information. Il est 6 heures ici à Washington, 11 heures à Sibout et Zinga en Centrafrique. La région du Sahel où l'opération française Barkhane va céder la place à une coalition internationale requiert une approche coordonnée combinant humanitaire, développement et sécurité, a indiqué le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Selon le dernier rapport du HCR sur les déplacements dans le monde publié aujourd'hui, environ 750 000 personnes ont été nouvellement déplacées au Sahel, dans ce qui est peut-être la crise régionale la plus complexe au monde. La dynamique de la crise est donc négative, a déclaré le haut-commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés, qui souligne donc l'importance stratégique de cette région africaine pour l'Europe. M. Grandi dit espérer qu'une approche stratégique qui combine tout comme l'humanitaire, le développement, l'investissement dans l'éducation et dans la prospérité économique, le volet sécurité pourra se faire de manière plus coordonnée. L'Éthiopie vote lundi lors d'élections législatives très attendues alors que le pays, qui est le deuxième le plus peuplé d'Afrique, est secoué par les violences, notamment dans la région du Tigré, en proie à la guerre et à la famine. D'abord prévues en août 2020, elles ont été reportées à deux reprises en raison du coronavirus, puis des difficultés logistiques. Toutefois, les électeurs ne voteront pas dans près d'un cinquième des 547 circonscriptions du pays. Dans 64 d'entre elles, le vote a été reporté au 6 septembre, soit pour des questions sécuritaires, soit en raison d'insurrections armées et de violences intercommunautaires qui se sont aggravées sous le mandat d'Abiy Ahmed, soit encore en raison des difficultés logistiques. Quant aux 38 circonscriptions du Tigré où la guerre fait rage depuis plus de 7 mois, aucune date du scrutin n'a été fixée. Au Cameroun, 3 militaires poursuivis pour le meurtre en février 2020 de 13 civils, dont 10 enfants, ont plaidé non coupables. Le procès a débuté le 17 décembre 2020. Après plusieurs renvois, les militaires poursuivis pour meurtre, incendie et destruction, violence sur femmes enceintes, violation de consignes, ont donc tous plaidé non coupables. Un premier témoin de l'accusation a été auditionné hier par le tribunal militaire de Yaoundé durant plus de 3 heures avant que l'audience ne soit suspendue et renvoyée au 15 juillet. Le gouvernement camerounais avait admis en avril 2020 que 13 civils avaient été tués par des militaires épaulés par une milice de l'ethnie Peul dans la région du nord-ouest du pays. Un deuil national de 21 jours a été décrété en Zambie et les drapeaux sont en berne suite au décès du premier président de la République, Kenneth Kaunda, père de l'indépendance de l'ancien protectorat britannique. Kenneth Kaunda, qui a dirigé la Zambie pendant 27 ans, est mort hier à 97 ans. L'ancien chef de l'État, surnommé Keke, avait été hospitalisé lundi dans un hôpital militaire de la capitale Lusaka pour une pneumonie. « C'est un jour sombre pour la Zambie », a déclaré un habitant de Lusaka, Herbert Simbeye, 50 ans, qui fréquentait la même église que Kaunda. Appelé aussi le Gandhi africain pour son militantisme non violent, Kenneth Kaunda avait conduit l'ancienne Rhodésie du Nord à l'indépendance sans effusion de sang en octobre 1964. L'Afrique du Sud, de son côté, décrète 10 jours de deuil national en mémoire de ce premier président zambien qui est donc décédé hier. La Zambie sous Kaunda était l'un des pays les plus opposés au gouvernement de l'apartheid et avait accueilli pendant des décennies le Congrès national africain en exil sur son sol depuis les années 70. Kaunda a été le premier dirigeant étranger à recevoir la visite de l'icône de la libération sud-africaine Nelson Mandela à sa sortie de prison en 1990. Malgré la pandémie, le nombre de personnes fuyant les guerres, les persécutions et les exactions a atteint un record de 82,4 millions, un chiffre deux fois plus élevé qu'il y a 10 ans, selon un rapport annuel de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, publié ce vendredi. À quelques mois de son départ, Angela Merkel reçoit aujourd'hui Emmanuel Macron pour un dîner consacré à l'Europe, un de leurs derniers tête-à-tête sur des sujets qui les ont longtemps divisés avant un rapprochement spectaculaire à la faveur du coronavirus. Le chef de l'État français est le premier dirigeant étranger à être invité cette année dans la capitale